Bonjour à tous. C'est différent de la semaine. Il y a plus de monde. Mais je crois que le Seigneur est le même et qu'il veut nous bénir. Pendant que nous préparons nos Bibles et que nous les ouvrons dans les Actes des Apôtres, s'il vous plaît, chapitre 20 et verset 24. On fait cette lecture. Alors, dans Actes 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. On continue une autre lecture. 1 Corinthiens, chapitre 9, et verset encore 24. 1 Corinthiens 9, 24. Encore Paul qui parle, et il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Amen. On se souvient bien tous qu'on est des chrétiens, c'est-à-dire des enfants, sauvés par grâce, par le moyen de la foi, tout du moins je l'espère, pour chacun d'entre nous, qu'on ne s'appuie pas sur une philosophie, une religion quelconque, mais véritablement sur le sacrifice de Jésus à la croix et sur sa résurrection, et que nous ayons foi en tout ce qu'il a fait, et que par là nous ayons reçu le salut pour notre vie, le salut qui nous mène au paradis, qui nous mène auprès de Jésus pour l'éternité, et qui dès aujourd'hui nous accorde la vie éternelle, cette qualité de vie qui n'est pas que pour le futur, mais qui est déjà pour le présent. Ça, on s'en souvient bien qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. On se souvient des paroles de Jésus qui dit qu'il y a une porte par laquelle il faut rentrer, porte étroite. Et ça, on est tous passés, je l'espère encore, par cette porte, ce moment de repentance, ce moment où on a été convaincus, on s'est repenti de nos péchés, on a vraiment connu le Seigneur, rencontré, fait une belle rencontre. Mais Dieu voudrait nous rappeler aujourd'hui, ce matin, que c'est bien de passer par la porte, mais qu'il faut continuer sur un chemin qui lui aussi est resserré. Souvent, on passe par la porte, mais on oublie qu'il y a un chemin. Ce n'est pas un événement d'un jour, mais c'est un événement de toute une vie. Nathanaël, une fois, nous rappelait ces paroles d'une personne qui a vécu longtemps avec le Seigneur et qui disait « Moi, mon culte, il a commencé tel jour et il n'est toujours pas fini. » Vous vous souvenez de ces paroles ? En tout cas, puissions-nous le vivre. Que notre vie, ce ne soit pas simplement un événement, notre foi, notre salut, ce ne soit pas un événement un jour, une date, simplement, mais une continuité, une marche. Et il nous est dit dans ces deux textes, une course, une course. Et c'est de cela que je voudrais parler ce matin. Il y a une course. Sommes-nous rentrés dans cette course ? Cette course est lancée par Dieu, en fait. Dieu a lancé une course, et depuis que Jésus est mort à la croix, il y a une course dans laquelle nous devons participer, et il nous est dit qu'il y aura un prix. Il y aura un prix, et Paul il dit, faites comme s'il n'y en avait qu'un, et que c'est vous qui devez le remporter. Ça veut dire, soyez motivés dans votre vie chrétienne, dans votre marche avec Dieu, dans cette course, soyez motivés, essayez d'obtenir le prix. Il y a un prix, il est pour ceux qui se donnent de tout leur cœur. Et on va voir un petit peu plus en détail ce qu'est cette course. On sait très bien que cette course, il n'y en a pas qu'un d'entre nous qui va avoir le prix. Est-ce que je mens ? Est-ce que je me trompe ? Paul pouvait dire encore, et on va le voir, qu'il y avait un prix, c'est une couronne de justice. Lui, il savait, hein, il était sûr de l'avoir. Il dit, oui, j'ai couru. Couru dans cette course et j'ai achevé ma course et nous-mêmes, il nous incite, il nous encourage à courir, parce qu'il y a une course qui doit être gagnée, remportée par chacun d'entre nous. Et il y a deux choses qu'on doit faire, simplement, pendant cette course. La première que je veux mettre en évidence, c'est la terminer. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Quelqu'un a peut-être emboîté le pas sur la foi, cru, fait des expériences, donné même sa vie un moment de tout son cœur. Il a fait vraiment une vraie démarche. Mais s'il ne continue pas jusqu'au bout, il va perdre le prix. Il va perdre la vie éternelle. Il n'aura pas cette vie qui est au bout du chemin. Alors il y a cette course dans laquelle on doit aller. Ça, c'est la première chose. Terminer cette course. La deuxième chose, c'est respecter les règles. Il y a des règles dans cette course. Et si on ne les suit pas, C'est pareil, on aura beau aller jusqu'au bout de notre vie en suivant un peu une course comme on veut, si on ne l'a pas fait selon les règles, on risque encore de perdre le bénéfice, le prix de cette course. Puissions-nous comprendre qu'il y a deux choses seulement à retenir. Terminer cette course, aller jusqu'au bout, mais pas n'importe comment, suivant des règles que Dieu donne. On est tous, je l'espère et je pense pour la plupart d'entre nous, on a commencé à partir dans cette course et je veux voir ce que dit un peu la parole de Dieu sur la course. Quand il parle de course, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne veux pas m'étaler parce que on sait, on y touche tous un peu. Je veux voir après qu'est-ce qui peut nous faire freiner ou nous ralentir dans cette course. Mais je commencerai donc, qu'est-ce qu'elle dit, la parole sur la course? Eh bien, premièrement, je voudrais mettre encore en évidence que ce n'est pas un sprint. Vous savez ce que c'est un sprint? C'est une distance suffisamment courte pour qu'on puisse courir vite, 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 tout. On donne tout, on y met tout, mais on s'épuise. Mais on arrive au bout, mais il faut pas que ça continue trop. On pourrait pas continuer à ce rythme-là. Mais le sprint, c'est je vais donner le plus, je vais courir le plus vite, je vais tout mettre. Je vais plus penser à rien, je vais courir le plus vite. Quand on regarde les Jeux Olympiques, on voit ces hommes, la vitesse où ils vont, et ils vont vite, il y a le sprint. Mais c'est pas un sprint, la vie, la course avec Dieu. C'est quoi? C'est un marathon. Un marathon. Une longue distance. Et le tout, c'est pas de partir tout feu, tout flamme, dans n'importe quelle direction, de toutes nos forces. Le tout, c'est de bien réfléchir. À courir de manière équilibrée. De manière en sécurité. Réfléchis pour pouvoir tenir jusqu'au bout. On l'a tous expérimenté au tout début de notre conversion. On est tout feu, tout flamme, et on est là, on parle à tout le monde de notre foi, on fait toutes sortes de zèles, etc., et on réalise qu'on est un peu maladroit. Et puis au bout d'un moment, paf, on tombe. On tombe. Ou alors on s'épuise, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de force. Le tout, ce n'est pas de sprinter, mais c'est de comprendre que c'est un marathon. Un marathon. C'est aussi une course. Mais pas comme ça démesuré, mais une course réfléchie. Je me souviens un jour, j'ai fait plusieurs crosses, vous savez le cross, les enfants ils font le cross, c'est quand à l'école, il y a une journée par an, je crois, une ou deux journées par an, où tous les enfants se réunissent et il y a une course. Les enfants de même âge à peu près, il y a une grande course, plusieurs kilomètres. C'est des enfants, j'étais enfant, alors c'est quelques kilomètres, 3-4 kilomètres, et voilà, il y avait une sorte de course comme un marathon, c'est pas un sprint. Et je me souviens plusieurs fois, je me suis loupé et je suis parti comme ça, fort, fort, fort. Et je voulais. Et puis au bout d'un moment, plus de force, épuisé. Et puis je me faisais doubler, quoi. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, mais au tout départ, dès le départ, j'ai juste pris l'avance comme ça, quelques mètres. Et après, je suis arrivé, je ne l'ai jamais réussi à nouveau. J'étais vraiment frustré parce que c'est arrivé qu'une fois. J'aurais bien aimé remporter cette médaille plusieurs fois, mais ça a été qu'une fois. J'étais là, j'ai fait juste quelque chose, un petit peu d'effort au tout départ. Puis après, je suis resté à une vitesse qui n'était ni trop fatigante, ni trop basse. Et j'ai compris, et j'ai appris même plus tard, que dans la course, on peut trouver tous, on a un rythme qui est différent. Qui est différent, on est tous différents, et ça Dieu le sait. C'est pour ça qu'il nous donne en fonction de nos capacités, nous dit la parabole. Mais on est là, on a tous un rythme, et si on arrive à trouver ce rythme qui est ni trop lent, ni trop vite, on peut tenir longtemps, sans trop s'épuiser. Et on peut faire de longues distances, pas trop vite, pas trop lentement. Mais on peut courir pendant longtemps, sans s'épuiser. Mais ça demande, je pense, une certaine habitude, un certain exercice pour arriver à faire ça. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de recommencer avec mon père. Je dis, viens, on va courir. Au bout d'un kilomètre, je fais demi-tour. J'en peux plus. J'arrive pas. C'est subtil. Un petit peu trop, un petit peu en dessous, et on n'est pas comme il faut. Et peut-être c'est cette image de ce chrétien, de moi, qui est là et qui veut en faire des fois trop, plus que Dieu, que ce que Dieu demande. Et il tombe dans l'activisme, il risque de s'épuiser. Et celui qui en fait pas assez, et là il tombe dans la culpabilité. Il tombe aussi dans le laxisme, dans la paresse, et donc dans l'oisiveté. Et donc, il y a toutes sortes de vices qui naissent. Et l'échec vient, il vient, et il le déstabilise. Apprendre à courir comme il faut. Il y a une manière de courir. Dieu a fait le corps humain pour qu'on puisse courir avec un certain équilibre sur de longues distances. Et ça me parle de ma course avec Dieu, dans ma foi, avec le Seigneur. Un marathon. Des fois, on peut ressembler ou tenter, on se dit, voilà, moi je veux courir le plus vite que tous les chrétiens, je veux être l'élite. Et on ressemble un petit peu à cette autruche dans Job. Prenez-le avec moi, Job 39, au verset 18, ou plutôt 21. Job 39, 21. Il nous est dit sur l'autruche, Job 39, 21. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Ah, plus vite que le cheval. Alors j'ai regardé un peu les vitesses sur internet et j'ai trouvé l'autruche moins vite, mais c'était peut-être des autruches de compétition à l'époque. Elles allaient vite, plus vite que le cheval et que son cavalier. Elles allaient vite. Et puis peut-être nous on dit, ah ouais, moi je vais aller vite, je vais aller vite, je veux dépasser tous les autres. Mais on réalise que Dieu ne nous appelle pas à être des autruches. Juste avant, on voit qu'il est dit au verset 20, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Au point que, au verset 17, elle abandonne ses œufs à la terre, elle les fait chauffer sur la poussière et elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. On n'est pas appelé à être des autruches. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas donné d'intelligence à l'autruche. Elle ne se soucie même pas du fait qu'elle peut enfanter et que c'est important d'enfanter. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dieu ne veut pas non plus que nous soyons des chevaux. Pourtant, c'est bien un cheval, ça court vite. 70 km/h. Ça court vite un cheval. Mais c'est pas ça non plus. Parce qu'on voit que le cheval, il est là, il a une belle crinière. Et puis, on voit dans la manière dont il est présenté encore dans Job, on le lit pas, mais vous pouvez le lire, le même chapitre. Le cheval, il est là, il est tout fier, il nous est dit. Fier. Il se rit quand il y a la bataille. Il dit en avant. Toutes sortes de choses. C'est un peu irréfléchi. C'est un peu irréfléchi. On doit pas être de chevaux non plus. Plein d'orgueil. Plein d'orgueil pour aller comme ça, à montrer sa belle parure, à hennir, à faire trembler la terre. Non. L'animal qui correspond le plus à ce qu'on doit être, c'est l'âne. On doit être des ânes. Et pourquoi vous rigolez? On doit être des ânes. C'est vrai, alors aujourd'hui on dit bête comme un âne. Mais je crois pas que c'est ça que Dieu veut dire. On doit être des ânes. Dans Job 38,5, il est dit « Qui met en liberté ?» Et là, Dieu pose une question. « Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien ?» Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes affranchis ? Non, il n'y a pas d'affranchis ce matin. Si ? Est-ce qu'on n'est pas des affranchis ? On ressemble plus à cette âne, non ? Et en plus, j'ai compris quelque chose. Quand je lisais dans la version à la colombe, il est dit, il parle de l'onagre. Alors ça, j'ai rien compris. J'ai pris le dictionnaire. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un onagre ? C'est un âne sauvage, en voie de disparition aujourd'hui, mais qui à l'époque était aussi dans ces zones qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Donc dans ce pays-là, c'était bien un bon endroit là, de la parole de Dieu, c'était le bon. Et l'onagre, c'est un âne sauvage, vous savez à quelle vitesse il court ? Aussi vite que le cheval, alléluia, mais sans orgueil. Aussi vite que le cheval, 70 km/h. C'est cet âne qui court à cette vitesse. C'est l'un des plus rapides. Et il précise l'onagre. Ah, moi je veux être un âne. Je veux être un âne. Un âne affranchi. Un âne. C'est un jour David Duplessis, qui, dans sa biographie, qui racontait, il y avait une grande convention de pasteurs, et son père l'avait amené avec lui, et il y a une annonce pour la mission, quelqu'un a besoin d'un âne. Il dit, voilà, on aurait besoin d'un âne parce que pour emmener les pasteurs, pour qu'ils aillent à tels endroits, il faut passer par des chemins très difficiles. On a besoin d'un âne. Et le papa de David Duplessis, il se lève, il prend son fils avec lui, il va sur l'estrade et dit, j'ai un âne. Et il le présente, j'ai un âne. Je le donne au Seigneur. Je le donne. Et David, on sait qu'il est allé en mission, etc. Il a fait toutes sortes de choses. Merci Seigneur. On voit que c'est bon d'être un âne. Parce que un âne, on a vu hein, ce chemin dans lequel on doit courir. C'est un chemin étroit et resserré, il nous est dit. Resserré, large et spacieuse. Et la route, et la porte, et la route. qui mène à la perdition, mais étroit et resserré. Et le chemin, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée, mais les chemins, des fois, ils sont dangereux. Quelqu'un est mort dernièrement. J'ai entendu aux informations, une femme est tombée à côté. Oui, un cheval, il ne passe pas là. Un âne, il y passe. Il y passe, il est doué pour ça. Et il vit dans les endroits escarpés, il y arrive à passer, lui. Puissions-nous être cet âne. Oui, un marathon équilibré, une marche équilibrée, une marche sûre. Non pas l'autruche qui va tellement vite qu'elle fait même pas attention, privée d'intelligence. Non, pas comme les chevaux pleins d'orgueil, oh, pleins de beauté. Simplement un âne, mais l'âne du Seigneur. Amen. J'apprends aussi, deuxième chose, que la course n'est pas réservée aux agiles, selon le monde, mais qu'elle est réservée à ceux qui dépendent de Jésus. La course, elle n'est pas réservée à ceux qui sont doués, des endurants, des hommes de guerre. C'est dans Ecclésiaste qu'on le voit, Ecclésiaste 9:11, je vous le lis. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. » Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alors je sais qu'il y a un contexte, et je sais qu'ils trouvent ça comme une anomalie. Il y a des gens sages, et pourtant, ce n'est pas pour eux le pain. Il y a des intelligents, mais ce n'est pas pour eux la richesse. À chaque fois, c'est ceux qui volent, c'est ceux qui... tout ça. Mais j'y vois quand même que le Seigneur, il dit, la course, elle n'est pas aux intelligents. Elle n'est pas aux agiles, selon ce monde. La course spirituelle... elle est réservée à ceux qui dépendent de Dieu, tout simplement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dit, dans Daniel 2, 20 et 21, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances. » La parole de Dieu me dit que Dieu maîtrise le temps et qu'il maîtrise aussi les circonstances. Alors la course, elle est pour moi. Ma course ne doit pas fluctuer, ma vitesse de croisière ne doit pas fluctuer en fonction des circonstances, en fonction du temps qu'il fait dans mon moral, mais simplement selon la parole de Dieu. Parce que je dépends de Dieu. Es-tu dans la course? Une question. Sommes-nous dans la course? Peut-être quelqu'un n'est même pas encore rentré dans cette course. Il s'est arrêté à la porte. Dieu aimerait nous dire à chacun qu'il ne faut pas s'arrêter à une expérience avec Dieu. Il ne faut pas s'arrêter même à un acte, un jour, au baptême simplement. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est toute la vie qui est importante. Toute la vie avec le Seigneur. Et si on a reçu le salut, la Bible m'apprend que je peux le perdre, le salut. Et c'est important de traverser, de courir dans cette course. Comme il faut, selon des règles, avec équilibre. Je ne veux pas m'étaler, ça pourrait faire l'objet d'un autre message, mais simplement nous rappeler que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, et que ce n'est pas réservé aux agiles seulement, tout le monde, tous, on peut y aller du moment qu'on dépend de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui peut ralentir ou freiner ma course? Qu'est-ce qui peut me bloquer sur mon chemin? Première chose que j'ai notée, le manque d'indication. Le manque d'indication. Quand il n'y a plus de panneaux pour nous indiquer où est la ville qu'on cherche, on est bien embêté. Aujourd'hui, il y a le GPS, mais imaginons qu'il n'y a plus de piles. Plus de piles au GPS. Ouais. Moi-même, même avec les panneaux, on arrive à tourner en rond. Alors imaginons s'il n'y a plus d'indication, plus aucune indication. Comment avoir des indications? Colossiens 2, 18 dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. C'est important ça. Quelqu'un peut nous priver, nous ravir le prix de la course, comment? En nous séduisant par un culte qui n'est pas annoncé dans la parole de Dieu. Culte des anges, doctrine X ou Y qui ne correspond plus à la parole de Dieu. Alors, vu qu'on sait qu'on peut perdre ce prix en étant détourné par toutes sortes de personnes, eh bien, je pense que Dieu nous a donné au moins deux choses, si je peux les appeler ainsi, pour ne pas m'égarer, mais au contraire, pour avoir des bonnes indications et des bonnes directions. Éphésiens 4, 11, on le prend ensemble. Le Seigneur nous enseigne qu'il nous a donné l'Église. J'aurais pu mettre la parole en premier. Je m'excuse. Mais je pense à l'Église tout de suite. Dieu nous a donné l'Église. Il nous a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Dieu nous a donné l'Église, les frères, les sœurs. Et là, il est parlé qu'il a donné les uns comme apôtres, etc. Mais je pense que tout, nous devons nous édifier par des psaumes, par des cantiques, par toutes sortes de choses. Quelqu'un a-t-il un enseignement? Quelqu'un a-t-il une parole? Qu'il la donne pour l'édification de l'Église, les divers charismes que Dieu a donnés pour ses enfants. Tout cela doit nous aider à aussi être conduits, mais tout cela doit aussi passer au filtre de la parole. Dans Actes 2, 28, on continue à lire aussi. Actes 2, 28. Il est repris une parole de David qui dit « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Et quelle est cette chose qui lui a fait connaître les sentiers de la vie dans Psaume 119? Vous connaissez très très bien ce texte, je peux vous le lire si vous voulez. Psaume 119, verset 105. Il nous est dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est la parole qui me fait connaître les sentiers de la vie. C'est la parole qui m'éclaire sur ce chemin. Si je dois courir mais que je n'y vois rien, mais que je suis dans les ténèbres, comment je vais faire? Je vais tomber. Un jour, papa prenait une autoroute et il faisait brouillard. Il faisait vraiment un grand brouillard et il passe un péage. Vous savez, ces grands péages, ces grandes autoroutes, et il y a plein de voies. Il passe et il sort du péage. Et il y avait un tel brouillard qu'on n'y voyait pas très bien. Il devait aller à l'église. Et il faisait nuit aussi, c'était le soir, une réunion du soir. Et il commence à avancer. Et vous savez que pendant un moment, il n'y a plus de marquage au sol. Il n'y a plus rien. Et il a commencé à se retrouver, il ne savait plus dans quel sens il était et où il fallait aller. Parce qu'il avait un peu tourné. Il pensait arriver au bout, il n'allait pas trop vite pour ne pas percuter, pour pas se faire prendre par un imprévu, et il panique d'un coup. Et puis au bout d'un moment, il voit la barrière, il était presque perpendiculaire à la barrière. Quand on n'y voit plus rien, quel danger. C'est rassurant quand on voit les bornes. La parole, des fois, ça ne nous plaît pas, les bornes. On aimerait avoir champ libre. Anne qui reste sauvage jusqu'au bout. Mais les bornes, les marquages au sol, c'est bon de les avoir, c'est sécurisant, ça nous prive de bien des inquiétudes et de bien des soucis. La parole de Dieu qui marque des indications, béni soit celui qui les suit. Oui. Deuxième chose, les obstacles. Dans le chemin, il peut y avoir des obstacles. Certains obstacles sont dus à Satan. Souvent, et on l'entend beaucoup, j'ai été attaqué par Satan cette semaine. Ou alors Satan j'ai des attaques, j'ai des oppressions, et souvent on voit que les gens, ils sont attaqués par Satan. Et je pense que oui, des fois, Satan y est pour quelque chose. Job 1, 9 à 12, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mets étends ta main. » Touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Je crois qu'il y a des moments où Dieu permet, parce qu'il n'y a rien qui ne soit permis de Dieu si jamais on marque dans ses voies, ou on cherche à lui plaire, mais quelquefois il y a des obstacles. Dieu permet à Satan qu'on soit éprouvé. Et je regardais dans une définition, il était parlé des tentations. Jésus a été tenté. On sait que ce n'est pas un péché, la tentation. Mais dans la définition du Thyrobert, tentation, c'était marqué épreuve qui permet de mettre en évidence les qualités et les défauts de quelqu'un. Et on a chanté tout à l'heure, si mon chemin passe pas loin du tentateur ou devant le tentateur, c'est pas ça qu'on a dit ? C'est arrivé à Jésus, ça nous arrive à nous aussi. Et des fois, il y a comme des obstacles, des points morts, où on n'arrive pas à avancer. On dit, il y a comme un combat, il y a quelque chose, sachant que c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour nous faire grandir. Job est sorti plus riche de connaissances en Dieu, plus riche en troupeaux, béni, plus béni encore qu'avant. Tout obstacle, toute épreuve qui est là, parce que Satan y a mis son grain de sel, c'est vraiment parce que Dieu veut nous aider. Et vous nous apprendre plus de choses, et vous nous approcher de lui, et nous apprendre peut-être à compter encore plus sur lui. Luc 13, 11 à 13 et 16, il est dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Une femme, 18 ans malade. Et c'est qui était le coupable dans l'affaire pour l'empêcher de marcher normalement? Peut-être même de courir, qui l'a gardé courbée. Il nous est dit, un esprit la rendait infirme. Je ne pense pas que c'est un esprit de Dieu. Je pense que c'est un esprit impur. Alors oui, des fois, il y a des combats. On voit que Paul, à plusieurs reprises, dit, Satan m'a empêché de venir. Dans les Thessaloniciens, c'est pas moi, c'est Paul le dit, Satan m'a empêché à plusieurs reprises, du moins moi, à deux ou trois reprises, je crois, et j'ai voulu venir, mais Satan m'en a empêché. Des fois, Satan y est pour quelque chose. Mais sachons, comme je l'ai dit, si on dépend de Dieu, toute chose que Dieu permet, toute attaque, même oppression qui viendrait, si elle est permise de Dieu, c'est parce que Dieu va nous aider. C'est cette parole qui m'a aidé à tenir quand j'ai brûlé sur place. Si Dieu l'a permis, il va t'aider à t'en sortir. Amen. D'autres fois, c'est un ange ou l'Éternel qui met un obstacle, qui nous bloque pendant un moment. Et on voit, pour nous protéger de la mort quelquefois, que le Seigneur nous arrête. Dans Nombre 22, 32, vous connaissez ce texte qui nous est dit que l'ange de l'Éternel lui dit, alors à qui parle là? Qui peut me le dire? Pardon? Oui. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » Des fois, ça arrive que même si on a pris le chemin, on s'en égare. Pas vous? Non, il n'y a que moi. Des fois, on s'en égare. Le Saint-Esprit veut nous ramener. Il veut nous ramener. Parce que même si on doit marcher sur le chemin, on est imparfait. Des fois, on se manque. Mais Dieu nous aime et il veut nous ramener. Et il nous résiste. Et il y a un obstacle. On dit, mais comment ça se fait? Ça marche plus, ça n'a plus de l'avant. Parce que Dieu voit qu'on est en train de prendre une voie, un chemin qui mène à la perdition. Alors Dieu nous résiste. Tant que tu n'auras pas décidé d'abandonner ça, ça ne pourra pas aller. Je vois que ce n'est pas un bon chemin. Dieu nous aime tant qu'il nous résiste, parfois. Et c'est pour nous protéger de la mort éternelle. Sinon, pour nous rendre vainqueurs. Quelquefois, on marche, on court, mais on a comme un handicap. Et il nous gêne, cet handicap. Il est là, il nous gêne, il nous dérange. Et je vois que Dieu a été capable d'arrêter le soleil dans sa course. S'il était capable d'arrêter le soleil dans sa course pour que les ennemis soient vaincus, il peut arrêter moi aussi ma course pour que dans ma vie, certains ennemis soient vaincus. Des grands ennemis, des géants, comme Goliath, celui de la paresse, toutes sortes d'ennemis comme ça, qui sont là et qui nous embêtent. Dieu dit, vaut mieux que tu te sois délivré maintenant. Fais un bon combat, remporte la victoire, après tu continueras, t'iras plus loin. T'iras plus loin. Des fois, il y a des stops du Seigneur pour nous rendre vainqueurs. D'autres fois, je vois aussi que le Seigneur y permet qu'on garde ses handicaps. Paul qui dit, j'ai une écharde. Il prie, le Seigneur, il lui dit, ma grâce te suffit. En tout cas, je pense que des fois, Dieu nous met quelque chose, des obstacles, pour qu'on ne s'enorgueillisse pas, ou bien pour qu'on remporte des victoires. Troisièmement, pourquoi on est gêné dans notre marche, dans notre course? Parce qu'on a des charges, on porte des charges inutiles. Timothée 2,4 dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Est-ce qu'on veut plaire au Seigneur? Alors il y a des choses dans la vie que Dieu il préfère. Il préfère qu'on n'y touche pas. Il préfère qu'on n'y aille pas ou qu'on s'en débarrasse, qu'on ne s'y attache pas de trop. Dieu m'a mis à cœur ces derniers temps vraiment de se séparer de l'interdit. Jeudi soir, vraiment, j'ai eu ça à cœur. Et ça continue que dans notre église locale, on puisse tous comprendre qu'il y a besoin de se séparer de l'interdit pour aller plus loin, pour continuer à remporter des victoires. Quelquefois, on regarde des choses à la télé, on regarde quelques pratiques, un langage qui déplaît à Dieu, un langage ordurier qui vraiment attriste le Saint-Esprit, et ça ne nous fait rien, on ne réalise pas. Mais je pense que ça, c'est des choses que Dieu nous veut qu'on se sépare, qu'on abandonne. Deux autres choses, les soucis. Dans 1 Pierre 5, 6 à 7, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Comment est notre Seigneur? Est-ce qu'il peut prendre soin de nous ou pas? Est-ce que notre foi étant un vrai Dieu, un Dieu vivant, le Dieu de la parole, qui peut prendre soin de nous vu ce qu'il a déjà fait? Ou est-ce qu'on est encore là à dire « Mais non, mais tu comprends pas, j'ai tel souci, j'ai telle chose. » Tout à l'heure, ce matin, j'étais avec quelqu'un au téléphone de ma famille et il me dit « Voilà, Jérémy, prie parce que je vais aller au Canada continuer l'école biblique et je vois, j'ai pas les papiers qu'il faut, j'ai plus qu'un mois. » Il s'affolait. J'ai dit « Mais écoute, si c'est la volonté de Dieu, on va prier, bien sûr qu'il faut prier, je vais prier avec toi. Mais reste en paix par contre, ne t'inquiète pas. Fais confiance au Seigneur. Si c'est la volonté de Dieu, est-ce qu'il peut pas faire qu'en une semaine tous les papiers soient faits? Après tout, il peut le faire. Il a fait bien des choses pour nous. Il a ramené M. Olé sur un sentier en plein désert. C'est ça. Il peut faire toutes sortes de choses. Rien n'est trop grand pour notre Seigneur. Alors, il peut prendre soin de nous. Les soucis, déposons-les. Matthieu 11, 28 à 29. Vous connaissez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et là, il dit, non pas déchargez-vous, mais prenez mon joug. Vous voulez du repos? Prenez mon joug. Prenez mon joug. Mais je pense que quand on prend le joug du Seigneur, il n'y a pas de place pour les soucis, le joug des soucis. Et ça implique le fait de nous décharger de nos soucis. Je me souviens de cette parole qui me touche à chaque fois, c'est « Je m'occupe des affaires de l'Éternel et lui s'occupe des miennes ». Et c'est même, je crois que oui, si je m'occupe des siennes, lui il s'occupe des miennes. Mais si je dis « Occupe-toi des miennes » et que je fais rien pour que j'ai plus de temps pour moi, ça risque de pas marcher. Ça risque de pas marcher. Seigneur, il est prêt à s'occuper de toutes nos affaires. Par contre, il a aussi un joug, un fardeau léger pour nous, mais un fardeau et un joug quand même. Les biens du monde, un autre poids, une charge inutile. Matthieu 6, 19, 20, « Ne vous avancez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où il n'y aura pas de voleurs, et là où il n'y aura pas de rouille, il n'y aura rien, rien, rien. Tous les trésors qu'on aura, ils seront pour l'éternité. Merci Seigneur. Ne perdons pas de temps avec les biens du monde. Quatrièmement, le manque de motivation. Quand j'ai plus de motivation, j'ai plus envie de courir. Ou les mauvaises motivations. Plus soif, plus faim de Dieu. Quand on a plus soif, plus faim de Dieu. Alors c'est un symptôme. C'est pas la cause, ça. C'est un symptôme. Et ça s'appelle l'anorexie. Hier soir, avec les jeunes, on parlait de l'anorexie et de la famine spirituelle. Et quand il est parlé d'anorexie, le dictionnaire est clair. Il dit, c'est quand on n'a plus faim. On en a besoin, mais notre corps ne nous le dit plus. Il y a une autre anorexie, l'anorexie mentale, qui fait que même si on en a faim, si on a faim, on lutte contre la faim. C'est notre anorexie. Mais l'anorexie, c'est quand notre corps n'éprouve plus la faim, alors qu'on est en manque de quelque chose. Et c'est une maladie. Mais j'ai un Dieu qui guérit. Amen. J'ai un Dieu qui guérit. Si quelqu'un n'a plus envie de lire la Bible, plus envie de passer du temps dans la prière, ou qui n'a plus envie d'obéir à Dieu, qui est dégoûté, je pense que c'est un symptôme et pas la cause. La cause, des fois, c'est des frustrations, ou des blessures, ou un mauvais exemple, ou des paroles, un jugement. J'ai passé hier une partie de l'après-midi à écouter des témoignages. C'est horrible. Et plusieurs disaient, voilà, toute ma jeunesse, on m'a dit, mais tu es grosse, ou t'es pas belle, ou tu vois pas, tu vas prendre du poids, arrête. Quand on le dit une fois pour le bien, peut-être, mais quand on est tout le temps, les personnes, elles se rendent dans la tête qu'elles vont être mieux si elles sont plus maigres. Et elles sont prisonnières. Mais j'ai un Dieu qui délivre. Amen. Et puis, je vois que spirituellement, on peut être en anorexie. Peut-être on a été blessé par quelqu'un dans l'église. Peut-être on a fait une prière qui n'a pas été exaucée. Ça nous a blessé. Toutes sortes de choses. Et on n'a plus envie, le dégoût, plus envie de venir aux réunions, plus rien. Ou pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Plus envie. Je prenais cette image aussi. Un des symptômes dans l'anorexie, c'est quand on fuit les repas de famille. On fuit les réunions. S'il vous plaît, si c'est votre cas, criez au Seigneur. Je suis sûr qu'il peut vous guérir et qu'il va le faire. Amen. Si on a besoin d'entretien, n'hésitons pas. Il y a des anciens, il y a des pasteurs qu'on peut voir. Vraiment, ils vont nous aider. En tout cas, on essaiera autant qu'on peut, mais je crois qu'au moins le Seigneur, il peut le faire. De Timothée 4, 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé mon avènement. Amen. Est-ce que j'aime encore le retour du Seigneur, l'avènement? Est-ce que ça me passionne d'attendre Jésus? Est-ce que je suis motivé parce qu'il revient? Ou est-ce que ça, c'est qu'une partie, une petite dimension de ma foi? Jésus revient. C'est ça qui fait que j'ai confiance en lui. Jésus revient bientôt. Il est là. Il revient très bientôt. Que ça puisse rester une motivation et que j'aime son avènement parce que ça va m'aider à garder de la motivation, à renouer ma motivation. Un jour, mes yeux verront Jésus. Jésus revient. Il revient très bientôt. J'aime son avènement. Alléluia. Et si je m'endors avant qu'il soit revenu, je ressusciterai premièrement, avant même ceux qui sont restés, et je vais aller dans le ciel, moi aussi, participer aux noces. Une mauvaise motivation, l'orgueil. Je cours pour ma gloire. Dans Isaïe 30, je vous le lis 15 à 18, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » On le connaît. Hein. « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit « Non, nous prendrons la course à cheval. » C'est pourquoi vous fuirez à la course. « Nous monterons des coursiers légers. » C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. « Mille fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de cinq, vous fuirez jusqu'à ce que l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Je crois que j'ai sauté un moment. « Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Oui, quand on veut prendre la course à cheval, quand on veut dire, allez, je pars d'un pied léger. Oui, qu'on ne puisse pas être trouvé léger dans la balance du Seigneur. Qu'on ne puisse pas s'en aller plein de fierté, plein d'orgueil. Parce que Dieu nous dit, c'est dans le calme et la tranquillité, dans le calme et la confiance, dans le repos et la tranquillité qu'est notre salut et notre force. Job 39, 19, 25, Dieu parle du cheval et je vous laisserai le lire, ce qu'il dit sur le cheval. Plein de fierté. Quand l'orgueil est notre motivation, je crois qu'on ne va pas aller bien loin. Dieu risque de nous résister, on risque d'être freiné dans notre course. Souvenez-vous, Jésus, et j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Jésus n'est pas rentré sur son fier cheval à Jérusalem. Jésus n'est pas rentré avec un cheval avec des fers d'or, avec un manteau magnifique, une couronne immense, plein de joyaux. Il n'est pas comme ça. Sur quoi il est monté, Jésus? Un âne, c'est pas assez précis. Le petit d'une ânesse, un ânon. Et même pas un ânon expérimenté, quoi, chevronné. Un ânon qui n'avait jamais reçu personne sur son dos. Ouais. Que je sois un âne, un incapable, mais dans les mains du Seigneur. Avec mes faiblesses, le Seigneur, il pourra se glorifier. Parce qu'il prend les choses faibles et folles du monde pour confondre les forts et les sages. Amen. c'est pas grave si on se sent faible. Oh, encore mieux, c'est qu'on a compris qu'en nous, il n'y a rien de bon. C'est pas ça ? Un âne. Oui, c'est ce que Jésus a utilisé. J'imagine la scène. Pourtant, ils l'ont quand même glorifié. Mais juste après, crucifié, crucifié. Matthieu 21,5. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Marc 11,2 nous précise que c'était un âne qui n'avait jamais porté personne. En parlant de la fierté, vous pourrez lire Jérémie 2,23 et Jérémie 8,4-13. Dernière chose, les distractions. Qu'est-ce qui peut me freiner dans ma marche ? Les distractions, quand je suis distrait par des choses. Papa utilisait souvent cette histoire et il disait qu'avant, dans les arènes, là où il y avait les courses, il y en avait, ils jetaient des billes d'or. Et les gens, quand ils couraient, ils étaient détournés. Des billes en or. Et ils étaient arrêtés, distraits dans leur course. Est-ce que les choses de ce monde ne sont pas comme des billes en or qui cherchent à nous séduire ? J'utilisais dernièrement cette image de quand on est sur la rocade et qu'on voit ce casino théâtre, plein de lumière, bleu, violet, rouge, tout ce qu'on veut, vert. Et puis la nuit, ça brille comme un phare dans la nuit. Mais c'est pas le bon phare. C'est pas le bon phare. Le casino, c'est la mort. C'est la prison. C'est l'esclavagisme. C'est ça le casino. Oh, mais une fois. Allez-y. Tentez. Moi, je crois qu'il y a des gens qui aimeraient bien en sortir. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait donner l'exemple et leur montrer qu'il y a une solution pour en sortir et pour ne pas y toucher, qu'il n'y a pas besoin de ça pour être heureux. 1 Corinthiens 7, 29 à 35 dit que ceux, et je le résume, quoi qu'on peut le lire, 1 Corinthiens 7, 29 à 35, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure du monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Je ne ferai aucun commentaire. Je ne m'aventurerai pas. Je pense que il dit, voilà, dans ce monde présent, on peut s'acquérir des choses. On peut bénéficier, on peut posséder. Il est dit, hein, ceux qui possèdent, donc c'est bien qu'il y en a qui possèdent et qu'on peut le faire. Par contre, on ne doit pas s'y attacher. On doit faire comme si on ne possédait pas. Si on en jouisse, c'est bien, mais qu'on ne s'y attache pas. Et si on venait à le perdre, qu'on ne s'affole pas et qu'on ne s'attriste pas. Qu'on s'attriste des âmes qui meurent sans être sauvé. Qu'on s'attriste de notre état peut-être qui n'est pas droit devant Dieu. Mais pas de ça. Ne vous inquiétez pas de ça. Il dit, il y a beaucoup de distractions dans le monde. Mais moi, je vous le dis ça pour votre intérêt. Il dit, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Il veut mettre en évidence qu'il faut faire attention aux distractions du monde. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et je me laisserai à servir par quoi que ce soit. Surtout pas être esclave de quoi que ce soit. Le vidéoprojecteur, il fait une barre, on l'utilise jusqu'à son dernier souffle. Eh bien, c'est bien. Mais s'il n'y en avait pas, eh bien qu'on chante des chants qu'on connaît par cœur. Et alors, est-ce que depuis toujours, il y a eu des vidéoprojecteurs ? Est-ce que depuis toujours, il y avait des imprimantes pour imprimer les livrets pour qu'on en ait un par personne ? Non. Ce qui est important, c'est de chanter de tout notre cœur. C'est pas vrai ? Alors qu'on ne s'attache pas à toutes ces choses, aux belles chaises confortables, qu'elles soient molletonnées ou que ce soit des bancs en bois comme en Afrique sous le soleil, sous l'atoll, peu importe. Que tout ça, on le voit comme secondaire. Il n'y a pas de place. La prochaine fois, je vais en métro. je plaisante. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Qu'on ne s'attache pas au bien. Et comme, qu'on fasse comme si on n'avait rien. Comme ça, le jour où on nous enlève quelque chose, on n'est pas attristé. On n'est pas perdu. Conclusion. Acte 13, 24-25. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient quelqu'un, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier ses souliers. » Avant d'achever sa course, Jean a dit quelque chose. « Regardez par moi, je ne suis pas celui que vous pensez, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Sauveur, mais celui qui vient après, c'est quelqu'un d'exceptionnel, dont je ne suis même pas digne de délier les souliers. » Attachez-vous à lui, regardez à lui. Pourquoi je mets en évidence ça? C'est parce que peut-être quelqu'un ce matin est venu tout déçu de lui-même. Plein de fardeaux, plein de défaitisme, plein de culpabilité. Parce que dans sa vie, il se dit, moi j'ai une course, j'arrive pas à aller bien vite, j'ai vieilli, je sais pas, toutes sortes de choses, je suis handicapé, peu importe votre problème, mais mécontent, frustré. Et dit, mais quel est le but de ma course à moi? Je suis là, je veux bien courir, mais pourquoi faire? Il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai plus de motivation, je suis plus motivé pour marcher, pour courir dans cette course. Jean n'a fait aucun miracle. Rien de surnaturel en soi, sauf qu'il y a des gens qui se convertissaient quand même, qui se repentaient, du moins. Jean était là et disait, mais moi après tout, à la fin de ma course, vous intéressez pas à moi. Arrêtez, ça y est, moi j'ai fait mon travail. Regardez à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait Jean? Il a préparé le chemin. Quel est le but de notre course à chacun? Pourquoi Dieu nous laisse encore dans cette course? On serait bien mieux là-haut? Non? Le repos éternel, la félicité, la présence de Jésus pour l'éternité, la gloire, la couronne, toutes ces choses, les notes, pourquoi il ne nous emmène pas tout de suite? Parce qu'on a un but dans notre vie. Un but. Le but de notre course, c'est de préparer le chemin du Seigneur dans le cœur de quelqu'un, pendant une prédication, pendant une réunion, dans notre foyer, dans le cœur de nos enfants, dans le milieu de notre travail. Préparer le chemin du Seigneur. Comment? Eh bien, en parlant de Jésus, en partageant l'Évangile, en rendant un bon témoignage, en priant, en obéissant à Dieu. Il nous est dit dans un texte, pour que le jour où Dieu viendra les visiter, ils le reçoivent, qu'ils se convertissent. On ne réalise pas, on ne voit pas beaucoup de conversions, on voit peut-être dans notre vie on est frustré, d'autres ils sont mieux, on a l'impression que c'est des autruches, ils courent plus vite que tout le monde, des guépards, je ne sais pas. Mais nous dans notre vie, on lutte et on ne voit rien d'exceptionnel. J'aimerais vous dire, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Peu importe la vitesse qui te convient, qui est la tienne, peu importe ta capacité, ce que Dieu te demande, c'est d'aller de progrès en progrès avec lui, lui faisant confiance. Oui, il faut qu'il y ait des progrès et qu'il soit évident, comme il l'a dit à Timothée. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une progression, une sanctification qui va progressante. Et si des fois ça fait en dents de scie, quand même on garde cette progression. Mais ne soyons pas frustrés parce qu'on se compare. Comprenons que tous, de toute manière, on n'est que là pour un but. Préparer le chemin pour le Seigneur. Aller parler aux âmes qui se perdent pour que peut-être qu'ils ne vont pas nous écouter à nous, peut-être qu'ils ne vont pas être convaincus quand nous on va les parler. Mais depuis quand c'est nous qui convaincons? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Depuis quand c'est les hommes qui font des miracles? C'est le Seigneur qui guérit, qui sauve, qui baptise. Depuis quand on est l'auteur de quoi que ce soit? Je l'ai noté, aucun pasteur, aucun ancien, aucun homme, aucune femme, aucun être humain n'a jamais reçu de Dieu un pouvoir magique pour créer un miracle, pour sauver quelqu'un ou pour changer le monde. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est de préparer le chemin du Seigneur. Il nous fait être participants d'un miracle, gloire à Dieu. On a su être les préparateurs, de ce moment les participants. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire, préparer le chemin. Que ta course reprenne de la valeur à tes yeux. Qu'on comprenne chacun que cette course a un but. La gloire de Dieu. L'avènement du Seigneur. Toutes ces choses, on doit les chérir. Les chérir et courir. Courir. Ne pas combattre comme battant l'air. Mais précisément. Parce que ce que je vais faire, c'est ce que Dieu m'a demandé. Amen.
de Timothée 4, 7, 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, car j'ai aimé son avènement. Aimons son avènement. Amen. Merci Jésus pour ces moments. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de m'avoir permis, fait l'honneur de présenter ta parole ce matin. Même si je l'ai fait avec crainte, même si j'étais malade avant de le faire, je suis heureux parce que j'ai fait ta volonté. J'ai cherché quelle était la parole, tu me l'as donnée. Tu m'as donné une pensée, je suis sûr qu'elle venait de toi. Je n'ai aucun doute, je suis convaincu, Seigneur. Certaines fois, j'avoue, j'ai pas été convaincu, mais là je le sais, alors je te fais confiance. Je sais que je rendrai des comptes à toi, Seigneur, c'est entre toi et moi. Mais je sais que tu voulais parler à quelqu'un. Il y a une course qui doit être courue. Et quelqu'un s'en prive. Que personne ne passe à côté, car il risque de passer à côté du salut. Trop de temps est passé. Trop de temps a coulé. Rachète le temps. Retourne sur ce chemin. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oui, tu bénis chacun d'entre nous. Tu nous raccompagnes. Tu nous aides à garder le bon dépôt. Tu brûles ce qui n'est pas de toi. Et tu le dissipes, Seigneur, afin que seulement ce qui est bon soit gardé dans nos cœurs, dans nos pensées. Aide-nous à méditer toutes ces choses. Aide-nous à garder ces versets gravés dans notre cœur pour qu'ils nous encouragent. Les versets, c'est toi qui les dis. Il n'y a pas d'erreur. Alors, aide-nous à les comprendre. Aide-nous à avoir du discernement. Que ton esprit vienne nous aider, Seigneur, à marcher, à courir dans ce chemin, dans cette carrière qui nous est ouverte. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as fait ce matin, ce que tu vas continuer de faire cette journée. Merci pour les âmes que tu vas sauver cet après-midi, parce que nous allons aller parler de toi et inviter des hommes, des femmes. Merci encore, mon Dieu, pour cette femme, Noun, que tu vas bénir, je le crois, Seigneur. Amen. Amen.